Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fait beau, hein?
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
C'est quoi cette coiffure? Tu veux pas tenter l'épilation définitive? Dis, tu penses que tu vas faire un truc pour cacher tes pas de doigts? Ça te gêne tes seins pour faire du sport? Tu devrais mettre plus souvent des talons, ça affine. T'as pas un peu grossi? Mais pourquoi tu mets jamais de boucle d'oreille? C'est féminin pourtant. J'ai un produit formidable pour cacher les cheveux blancs. Est-ce que vous voulez essayer? Ah, t'es bien sans ces kilos, mais alors maigris pas plus parce que sinon ton visage va se creuser. À ton âge, le maillot une pièce, c'est peut-être mieux que le bikini, non? Alors voilà, ça c'était un petit florilège des phrases entendues ces derniers mois. Une liste d'injonctions faites à mon corps exerçant une pression sociale dont j'aimerais bien me départir. Je voudrais m'en foutre de ces diktats qui transpirent des pages de papier glacé, ne pas me soucier de mon apparence physique, je voudrais, mais en toute honnêteté, je le fais pas. Alors oui, les normes corporelles de mes 20 ans ne sont plus celles d'aujourd'hui, mais les injonctions persistent. Elles étaient d'ordre esthétique, elles le sont toujours, doublées de considérations hygiénistes. Comment nos corps d'hommes et de femmes peuvent résister à cette pression sociale? Comment s'accepter? Comment se réapproprier ce corps? Et vous, vous sentez-vous bien dans votre corps?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour évoquer les pressions sociales exercées sur nos corps de femmes et d'hommes. Bonjour Marc Galliano.
Bonjour Eva.
Vous êtes andrologue et urologue, auteur de « Mon sexe et moi », manuel pour comprendre et réparer son pénis. C'est paru aux éditions Marabout. On va parler des injonctions faites aux hommes aussi,
exact.
Avec vous. Avec nous également Dorothée Gilbert. Bonjour Dorothée.
Bonjour Eva.
Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris. Et en duplex depuis Nice, grâce à nos confrères de France Bleu Azur, Camille Aumont-Carnel. Bonjour Camille.
Bonjour.
Comment je fais pour vous présenter? Est-ce que le terme d'influenceuse vous convient? C'est un peu étrange.
Oui, ça
vous va?
Oui,
on dit
ça
que vous
va,
êtes,
c'est parfait.
Vous êtes la créatrice de plusieurs comptes Instagram, dont Je m'emballe Clito, qui compte quand même 750 000 abonnés. Et j'ai une première question très difficile pour vous trois. Est-ce que vous êtes capable de me décrire votre corps en trois mots, Marc Galliano?
J'ai beaucoup réfléchi. Moi, j'en bats deux. Je dirais plutôt grand, oui. Élancé.
Dorothée Gilbert?
Docile, sportif, spirituel.
Ah, vous mettez les termes de docile et de spirituel quand vous parlez de votre corps physique.
Ouais.
D'accord. Et Camille Aumont-Carnel, comment vous vous décrivez en trois mots?
Moi, j'aurais dit poétique, politique, et je dirais que c'est une belle armature.
Ah, Camille Aumont-Carnel, on le voit quand même avec ce petit exercice. Est-ce que décrire son corps, c'est déjà parler de son identité?
Complètement. Et je pense surtout que décrire son corps, c'est déjà révéler la vision qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des personnes qui vont parler uniquement d'aspect physique, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus dans quelque chose de négatif, d'autres dans quelque chose de positif, il y a des personnes qui vont pas du tout avoir besoin de dénigrer leur corps. Je pense que ça en dit long sur la société, ouais. Et ça en dit long surtout sur le besoin qu'on a de toujours pas s'aimer, quoi. C'est horrible, on a du mal à s'en défaire, hein.
Mais oui.
Ça va venir, mais on est vraiment emprisonné dans quelque chose d'hyper malsain qui nous aide pas, tout simplement, qui nous aide pas à être libre, qui nous aide pas à s'accepter et à s'aimer. Mais c'est bien qu'on en parle parce que
Je
pense qu'on est, on est vers la bonne voie.
Mais alors, est-ce qu'il y a une injonction que vous détestez par-dessus tout, Camille?
Moi, c'est tout ce qui consiste à énumérer en fait ce qu'on appelle des caractères physiques qui sont plus que normales, à savoir des poils, de la cellulite,
ouais.
Des vergetures, du gras, des bourrelets, enfin en fait ce qu'on appelle un corps humain.
Oui.
Et on met ça dans la case des trucs pas beaux et pas montrables.
Oui.
Donc ça, je pense que ça m'énerve plus que tout, parce que si on parle de normes et si on parle de ce ne sont pas des choses normales, il y a plus de personnes sur Terre avec des bourrelets, de la cellulite, des vergetures que des personnes qui n'en ont pas du tout.
Nous sommes bien d'accord.
Donc je pense qu'il faut aussi replacer les mots, les définitions, et en fait avoir des bourrelets, de la cellulite, des vergetures, des poils, parfois une peau un peu d'orange, en fait c'est faire partie de la norme. Donc voilà.
Voilà, mais vous avez bien raison. Marc Galliano, dans votre cabinet, est-ce qu'il n'est question que de problèmes physiques, ou vous vous retrouvez parfois dans une position quasiment de psychologue, voire de pédagogue, face à des patients qui sont quand même inquiets que leur corps ne corresponde pas à cette représentation sociale qu'on dit acceptable?
Alors c'est vrai qu'on peut pas dissocier corps et esprit. Hein, c'est l'erreur de Descartes qui à un moment donné a dissocié le corps et l'esprit. Donc en effet, lorsqu'on s'intéresse à l'andrologie et aux questions de sexualité, on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Donc en effet, de temps en temps, on a des demandes qui concernent le corps, mais qui sont en fait des demandes qui concernent l'esprit. Et inversement, de temps en temps, on gratte un peu, et puis on se rend compte qu'il y a une difficulté aussi physique, parce qu'il ne faut pas aussi méconnaître des vrais problèmes physiques, des problèmes anatomiques, des problèmes qui peuvent éventuellement se réparer chirurgicalement. Donc il faut être peut-être moins manichéen, mais un corps, c'est quand même une enveloppe, c'est un véhicule. Donc après, qu'on aime sa voiture ou pas, c'est quand même sa voiture.
Oui.
Donc autant plutôt
c'est marrant qu'on puisse être bien dedans, l'image de la voiture.
Oui, c'est plus facile que le cheval.
Oui, d'accord, on est d'accord. Plus sérieusement, quelles sont les injonctions sociales qui sont faites aux hommes aujourd'hui et dont on vous parle régulièrement?
Alors, les hommes, en fait, ça pas depuis l'époque des Spartiates, des Spartes, ça rien à changer. Les hommes sont toujours un peu plus axés sur la performance.
Donc on parle de sexualité généralement quand on parle d'injonction sociale auprès des hommes.
Ouais, c'est alors il y a le physique maintenant qui prend aussi le pas sur les cheveux blancs, la chute des cheveux, sur pareil
les bourrelets,
exactement. Ouais. Il faut être musclé, Mais en tous les cas, ce qui revient le plus souvent dans ma consultation, c'est des difficultés sexuelles qu'on croit en fait, tout simplement. Je bande pas assez dur, ça dure pas assez longtemps, j'ai pas un sexe assez grand. Donc on est quand même toujours un petit peu axé sur la performance, plus que sur des réelles difficultés physiques.
Ouais. Dorothée Gilbert, j'ai souhaité vous inviter parce que votre corps est votre outil de travail, parce que vous devez le préserver à chaque seconde de votre vie. Et pourtant, ce corps, il a bien failli vous interdire une carrière de danseuse parce que votre corps, il n'entrait pas dans une norme. Comme on l'attendait des danseuses à ce moment-là.
Oui, j'ai dû beaucoup travailler pour modeler ce corps à l'image justement de la danse classique, c'est-à-dire que j'avais plein de difficultés physiques qui m'empêchaient entre guillemets de devenir danseuse, et puis finalement j'ai compris comment les travailler, comment le modeler, comment le façonner, et finalement petit à petit j'ai réussi à cacher mes défauts et en faire presque des qualités.
Et c'était quoi ces défauts pour qu'on comprenne bien? Qu'est-ce qu'on reprochait à votre corps?
Non, ce sont des défauts de qualité qu'on demande à une danseuse classique, c'est-à-dire la souplesse, l'en dehors, le coup de pied. Je suis quelqu'un d'assez tonique et de pas très souple, et pour une danseuse c'est bien d'avoir un bon équilibre entre les deux, donc j'ai essayé de rétablir l'équilibre.
Et alors, est-ce que vous avez l'impression que votre corps a subi des diktats pendant que imposés par l'Opéra de Paris quand vous dansez, depuis que vous avez fait le début de votre carrière?
Ce ne sont pas des diktats, ce sont des beautés de ligne.
D'accord, donc vous le voyez plutôt de façon positive en fait.
Ah bah oui. C'est-à-dire que la danse classique, ce qui est beau quand on va voir une danseuse, c'est de voir les lignes, de voir la qualité d'interprétation. Et donc ces lignes-là, si on ne les a pas, il faut les travailler quand même. Donc c'est pas un diktat, c'est juste une façon d'arriver à quelque chose de beau.
Oui, mais alors est-ce que ça veut dire que par exemple à l'Opéra de Paris, on n'est pas prêt à avoir des corps différents sur scène? C'est-à-dire que par exemple on peut pas imaginer des personnes en surpoids qui pourtant pourraient être de très bons danseurs?
Ah oui, ben c'est sûr, c'est une question. Après, on n'a pas tous les mêmes physiques.
Oui,
il y en a qui sont très fins, d'autres qui le sont un peu moins, d'autres qui ont des muscles ronds, d'autres qui ont des muscles plutôt allongés. Donc, en effet, mais c'est sûr qu'on rentre dans une norme quand même de plutôt mince. Oui. Mais en même temps, quand on fait 6 heures de sport par jour, c'est difficile quand même d'être gros. Et puis, parce que je pense aussi que plus on est léger, plus c'est facile.
Oui.
Plus le corps est malléable et plus la danse classique avec l'en dehors et les cuisses tournées, ça permet plus. Enfin, quand on est mince, c'est plus facile aussi. Donc, je pense que pour arriver à une certaine performance et pour qu'on se fatigue moins, il y a aussi tout ça qui rentre en ligne de compte, mais qui finalement la performance nous permet aussi de mincir parce que on se dépense tellement que finalement c'est voilà. Je pense que c'est. C'est comme quand on voit les sportifs et les athlètes, ils ont tous des corps magnifiques. Oui. Et parce qu'ils font tellement leur sport aussi que c'est le sport qui sculpte leur corps.
Oui, c'est le corps, c'est ça, c'est l'activité corporelle qui va sculpter.
C'est ça.
Qui va sculpter et donner ses formes. Est-ce que vous avez quand même l'impression que le regard sur le corps change depuis quelques années à l'opéra?
Oh oui, je trouve.
On prend plus en compte notamment la partie psychique, etc. Ou on est encore dans des... C'est vrai qu'on a une image de la danseuse où, hyper, enfin, qui suit des cours hyper sévères, avec un corps martyrisé, tyrannisé. Est-ce que c'est encore le cas?
Non, 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 ça évolue, ça a beaucoup évolué, hein, comme la société.
Ouais.
Après, évidemment que quand on travaille et qu'on pousse nos corps à l'extrême, ça fait mal et que mais ce sont les muscles qui font mal, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est ça fait partie du métier. Donc de là à dire est-ce qu'on aime souffrir, bon voilà. Après la balance entre les deux est un équilibre fragile. Mais en tout cas, on n'est plus martyrisé comme on peut l'imaginer avec les professeurs avec les baguettes. Et... non, non.
On, ça, a, c'est on fini. A encore ces images en ouais. tête. Camille Aumont-Carnel, vous avez 24 ans, si oui. je me trompe pas.
Exactement.
À quel moment vous prenez conscience de l'importance de votre corps? Vous le savez?
Moi, je me souviens que quand j'avais 13-14 ans, je crois, j'ai commencé à avoir des vergetures et je l'ai super mal vécu. Et je me souviens que j'ai acheté une espèce de crème anti-vergetures et je l'ai appliquée vraiment comme si c'était un traitement et que j'étais en phase terminale d'une maladie hyper grave tous les jours soigneusement. En fait, comme si j'avais un problème, comme si c'était quelque chose qu'il fallait soigner.
Mais vous aviez une remarque pour que ça vous perturbe à ce point-là?
Non, c'était pas une remarque, c'est encore plus dur et plus violent et plus subtil, c'est qu'en fait, je voyais pas de personne avec des vergetures. À part quelques copines et encore, mais c'est-à-dire qu'à la télé, dans les magazines, dans les pubs, en affiches de campagne, de maillots de bain que je voulais, de grandes marques, de... En fait, non, mais l'importance de la représentation, aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend compte. Alors, il y a tout un aspect purement commercial, dans le sens où les marques ont aussi compris qu'elles allaient plus vendre si on montrait de la diversité. Mais peu importe, parce qu'en fait, le fait est que ça bouge et qu'en fait, on se sent presque aujourd'hui obligé, quand on fait une campagne de maillot de bain, de mettre des personnes,
oui.
entre gros guillemets, normales,
oui.
pour vendre et pour pas se faire complètement attaquer sur les réseaux sociaux. Mais je me souviens aussi que je me suis dit, mais en fait, ça s'arrêtera jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose.
Mais
et
c'est
puis
ça.
Que j'ai pas,
mais oui.
Voilà, en fait, c'est un cercle fin, on rentre dans un espèce de cercle vicieux. Et à un moment donné, et ça, je vous assure, c'est que je me suis dit, mais en fait, je vais pas attendre que la société évolue et qu'on se donne rendez-vous dans 20 ans quand tout ça sera complètement accepté, mais juste, il y a un moment donné où tu décides. Et moi, j'ai décidé que, pas forcément, j'allais aimer mon corps, mais du moins, j'allais l'accepter. Que j'avais plus envie de dépenser autant d'énergie à me battre avec lui-même. Et Marc parlait d'une voiture, moi, mon corps, c'est mon coloc, quoi. Donc
oui.
au bout d'un moment, c'est cool de se blairer, c'est cool de... Voilà, on n'est pas obligé de tomber amoureux, mais c'est cool si on peut habiter ensemble, en fait. Et donc, je suis dans cette démarche-là, mais on décide à un moment donné.
Ouais, Dorothée Gilbert, on est coloc avec son corps hein, quand on est danseuse. C'est même plus que ça.
Hein. Oh, c'est plus qu'on fait ouais. qu'un avec son
on
corps.
Fait hein. qu'un. Est-ce que vous êtes arrivé parfois à vous oublier pour ne mettre en avant que ce corps-là? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
On s'oublie pour les personnages qu'on interprète.
Ah oui,
mais c'est encore autre chose.
Ouais,
finalement,
autre chose.
Il est habité par autre chose quand même. Il y a toujours une âme et il y a quand même toujours une profondeur autre que juste athlétique.
Marc Galliano, ces injonctions sociales, elles sont plurielles, on va y revenir. Est-ce qu'elles touchent toutes les générations? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recrudescence chez les hommes de ces injonctions, enfin, une recrudescence, une sensibilité particulière à ces injonctions en vieillissant, ou finalement toutes les générations sont concernées?
Alors, par prisme, hein, donc
oui.
c'est mon prisme de consultation, c'est au quotidien ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait c'est transgénérationnel. On pensait que les générations de nos parents étaient plus sensibilisées à ça parce qu'ils communiquaient moins. En fait, plus on communique, plus on peut trouver des défauts, plus on peut se mettre la pression. Donc en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de, c'est pas vraiment lié à un âge, mais c'est plutôt lié à
un mode de vie,
un mode de vie et aux interactions sociales qu'on a. Plus on interagit. C'est à double tranchant.
Et oui, ouais.
Plus on interagit, plus on peut se retrouver pris en défaut. Moins on interagit, plus on se sent protégé, mais on se retrouve face à soi-même et donc à sa propre réalité, qu'il faut confronter en fait, parce qu'on a sa propre vérité. Mais en fait, la vérité,
ouais.
une vérité plus large, et puis il y a sa propre image. On a souvent une distorsion de sa propre image, même de sa voix. Quand vous écoutez le soir, vous vous dites « Ah, quelle voix horrible !» Mais
ouais.
en fait, c'est votre voix.
Ouais. On est d'accord.
Et physiquement, c'est la même chose.
Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais c'est
vrai. Vous avez une très belle voix, Eva. Il n'y a pas de souci. Mais c'est de l'adaptation, c'est de l'interaction aux autres.
On va parler de cette acceptation. On va revenir aussi sur la pluralité des injonctions qui sont faites au corps. Comme tous les jours, on attend vos témoignages. Que faites-vous pour aimer votre corps? Est-ce que vous l'aimez d'ailleurs, ce corps? Vous avez à votre disposition le numéro de téléphone, le 01 45 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir sur la page de l'émission L'été comme jamais via l'application ou le site. La voix puissante de la chanteuse américaine Amity Skia et son titre Black Myself sur France Inter dans L'été comme jamais.
Alors, mon rapport au corps, je pense qu'il est plus facile d'en parler quand on a 71 ans que lorsqu'on a 50. Non, je pense que j'accepte beaucoup plus facilement maintenant que lorsque j'étais jeune.
Par rapport au corps, je me souviens quand j'avais... Oh, je sais pas quel âge j'avais, 40 ans, je mettais des gaines pour ne pas avoir de ventre. Quand j'y pense, je dis, c'est pas vrai. C'est idiot de se dire, ah, oh, mais je suis pas bien, je suis pas belle, je sais pas si, je fais pas ça, parce que, mais non, faut s'accepter tel qu'on est tout le temps, et puis profiter de la vie, chaque instant. There is nothing for me but
to love you. Vous venez d'entendre le magnifique témoignage de Marie-Paul, elle a 71 ans. Elle était interviewée par Léa Bordy. La vidéaste recueille régulièrement depuis plusieurs années la parole de femmes et d'hommes qui évoquent leur rapport au corps. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube. Marc Galliano, est-ce que l'âge est une pression sociale? Est-ce que l'âge implique aussi une injonction à notre corps?
Alors, l'âge, c'est pas une injonction sociale, c'est une injonction physique. D'ailleurs, on définit aujourd'hui, en tant qu'andrologue, le vieillissement, c'est lorsqu'on n'est plus capable d'assumer des actions à cause de son âge. Par exemple, vous avez de l'arthrose, ça vous limite dans vos déplacements. Donc aujourd'hui, par exemple, moi en tant qu'andrologue, mon travail consiste à rétablir des équilibres. Et par exemple, quand je donne de la testostérone à un homme qui en manque, ça lui donne non seulement un coup de fouet, on va dire, mais c'est physique et intellectuel. Ça améliore la mémoire, la qualité du sommeil, ça améliore aussi la résistance musculaire, ça diminue l'ostéoporose. Donc, ça permet de continuer à vivre sa vie comme on l'entend. Alors, évidemment, hein, c'est quand vous avez à un moment donné trop d'arthrose, il vous faut une prothèse de hanche, et pourquoi pas? Vous permet de recourir, de remarcher, d'être autonome.
Et alors, est-ce qu'il y a des patients qui viennent vous voir en vous demandant de la testostérone parce que, justement, par injonction sociale, quelque part, ils ont envie de continuer à avoir le même rythme de vie. Alors, ils vieillissent et qu'ils ne peuvent plus avoir cette vie-là.
Alors, pourquoi on ne pourrait plus avoir cette vie-là?
D'accord, vous avez raison. Non, mais je l'entends.
Pourquoi on ne pourrait pas avoir cette vie-là? En fait, on peut... Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite à part celle qu'on s'impose.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit pensé. Enfin, vous voyez, sinon, il n'y a pas de limite, au fond, et... Je sais pas comment vous dire, c'est compliqué.
Mais c'est pas du dopage.
On est d'accord sur le dopage.
On retrouve des équilibres.
Oui.
Mais même le dopage dans le cyclisme, moi je suis un fan de vélo, quand vous dopez, quand vous vous chargez comme une barrique, comme on dit dans le milieu, vous augmentez vos capacités physiques de 27%. Donc ça veut dire que de toute façon, on pourra jamais faire mieux que ce que fait la nature. Par contre, c'est simplement redonner des équilibres. Vous êtes fatigué, vous vous traînez, vous avez une sale humeur parce qu'il vous manque de la testostérone, mais pourquoi pas en prendre si vous êtes bien surveillé? Mais c'est pas dopage, c'est juste de vous remettre à niveau. Et quand quelqu'un vient me voir et qui me demande de la testo, d'abord on fait des examens biologiques, on a un interrogatoire clinique, ici les deux sont corrélés, et ben on peut traiter.
Voilà, vous avez quand même de comprendre si cette demande, elle vient pas d'un article lu dans un magazine précédemment.
Alors, ça viendra forcément d'un article, mais ensuite on corrige.
D'accord.
C'est-à-dire que si un patient vient, il veut de la testo, qu'il n'en a pas besoin, ben on lui dit, ben, il n'en a pas besoin.
Bon, on a des messages des auditeurs, des hommes et des femmes. Robert qui nous dit, je suis frappé par la différence accordée à l'image des cheveux gris chez les hommes et chez les femmes. Pousser à la coloration n'est pas très bon non plus pour la santé et l'environnement. Vous avez bien raison, mais c'est vrai que ces cheveux blancs et ces cheveux blancs chez les hommes et chez les femmes, c'est pas perçu de la même façon. Dorothée Gilbert, vous me regardez avec des grands yeux.
J'écoute.
Vous m'écoutez. Camille Aumont-Carnel, je le disais, vous avez créé des comptes Instagram sur lesquels vous parlez de façon très cash de sexualité, notamment. Est-ce que les réseaux sociaux ont, selon vous, accentué cette pression sociale sur les corps ou c'est devenu, au fond, le lieu de visibilité de tous les corps?
Ce que je trouve magnifique avec les réseaux sociaux, c'est que c'est les deux en même temps. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant complexé en voyant des photos souvent retouchées, précisons-le, de femmes et d'hommes et de personnes non binaires qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, c'est aussi le lieu où le corps devient politique, où le corps, on le montre de façon pas comme d'habitude. Ouais. On a de la diversité, on a de la représentation. Et moi, je suis toujours hyper amusée de voir des abonnés qui me disent « Mais moi, je te suis toi avec tes posts et tes photos décomplexantes et tes vidéos hyper humoristiques sur le corps. » Et mon feed, en fait, la photo d'après, c'est Kim K ou d'autres personnes qui vont en fait avoir des corps qui vont potentiellement complexer d'autres personnes. Donc je trouve que c'est le paradoxe et c'est les contradictions en fait de la vie et les réseaux sociaux. Pour ça, c'est bien. Par contre, c'est vrai que l'incarnation, la représentation, en fait, le fait de juste un matin se lever, regarder son téléphone et se dire « Ah putain, quelqu'un qui me ressemble ». En fait, merci. Et moi, c'est les messages que je reçois, c'est merci juste de montrer. Ouais. Merci de me laisser le choix, en fait, dans ce que je peux voir, dans la perception. Merci d'avoir osé me faire comprendre que mon corps était montrable, que c'était pas un objet de honte, que je pouvais... Mais en fait, c'est des détails. Mais c'est des détails qui, tout simplement, handicapent et pourrissent la vie de presque tout le monde. Parce qu'en fait, très sincèrement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment leur corps, qui s'aiment tout court ou qui, du moins, l'acceptent. Donc je me dis, est-ce qu'en fait, on n'est pas dans quelque chose d'assez systémique duquel il faut sortir? Parce que tout simplement, en fait, ça nous rend pas heureux, ça nous rend pas heureuse. Et je sais pas, moi, je sais pas ce que ça veut dire un beau corps, un corps magnifique. Enfin, je sais pas, moi, si on arrive tous à se mettre d'accord sur une définition, je serais peut-être ok.
Oui.
Mais le fait est que on se rend surtout compte que le corps, il est là pour tout, sauf être magnifique et être beau. Enfin, il sert pas à ça.
D'ailleurs, Camille, parmi tous les messages que vous recevez au quotidien de la part des personnes qui vous suivent sur les réseaux et qui vous posent des questions, est-ce que vous avez une idée des diktats qui leur pèsent le plus? Est-ce que c'est le poids, par exemple?
Poils.
Les poils. Je pensais que c'était le poids.
Pas
c'est
tellement
les poils.
Le poids.
Ouais.
Non, c'est pas tellement le poids, parce qu'en fait, il y a des personnes qui me disent non, mais si juste mes jambes étaient vraiment très lisses, mon ventre plat, et en fait, c'est pas tellement le poids, c'est l'apparence non lisse que peut avoir un corps humain. Ouais. Après, les poils, ça reste quelque chose. Moi, je comprends pas quoi. C'est-à-dire que va falloir m'expliquer le concept. Enfin, c'est-à-dire que c'est là pour quelque chose. Non, mais parlons-en. Je veux dire.
Bah, oui, Marc, il est d'accord apparemment.
C'est normal.
Bah oui. Marc Galliano.
Alors, juste pour information, à quoi servent les poils pubiens?
Ah ben non, mais on attend votre réponse, c'est vous le médecin, Marc Galliano.
Alors le poil pubien, ça a une vraie fonction, d'abord par rapport aux phéromones, il ne faut pas oublier que c'est là où on capte beaucoup d'odeurs, c'est là où on stocke des odeurs et des informations. On a un petit organe, enfin c'est pas un petit organe, qui est dans le cerveau qu'on appelle le rhinocéphale, qui est plus gros que l'hypothalamus, qui est quand même une glande très importante, et qui permet de capter les odeurs. Donc c'est pas aussi gros qu'un rhinocéphale de chien, mais on capte énormément d'odeurs inconsciemment. Donc ça, ça a une fonction. Deuxièmement, ça a une fonction aussi pour le biotype bactérien. C'est-à-dire qu'en permanence, avec le vagin, où maintenant on se rend compte qu'il y a un biotype bactérien aussi au niveau de la verge et des bourses, en fait, il y a des bactéries qui circulent. Ces bactéries qui circulent, ça permet d'équilibrer les flores vaginales. Donc en fait, avoir du poil sur la vulve ou sur le pubis, ça a plusieurs fonctions. Donc oui, ça a une utilité. Donc se priver de ses poils pour une raison esthétique, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas au niveau physiologique et médical, il peut y avoir des conséquences. Peut-être on pourrait plus développer de cystes à cause de ça. Donc il y a des études qui ont été faites sur le sujet.
Mais on voit le travail de pédagogie qu'il faut faire par rapport à ces injonctions sociales et au message médical qui suit derrière. J'aimerais qu'on prenne Oscar qui vient de nous appeler. Bonjour Oscar.
Oui.
Bonjour, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône, vous avez 20 ans et vous vouliez réagir à ce qu'on vient de dire ?
Oui, exactement. Voilà, je voulais donner rapidement un point de vue de voir quelqu'un de 20 ans. Je suis tatoué sur la moitié du corps. Oh. Et au quotidien, entre les réseaux sociaux, mon entourage, le travail, tout, j'ai tendance à entendre et à avoir beaucoup de choses par rapport à ça.
Parce que vous êtes tatoué simplement, c'est ça ?
Par rapport au fait que je suis tatoué aussi, ouais. Parallèlement aussi, genre, du moins par rapport aux sociaux, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de classification des jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui disent assez ouvertement sur certains réseaux sociaux que dans le futur, leurs compagnons devraient répondre, ou même au travail, je l'entends régulièrement, que leurs futurs compagnons devront répondre à des critères bien précis.
Oui.
Et je trouve que ça enlève beaucoup de magie à tout ce qu'on peut retrouver dans l'institution. Quand j'entends des collègues de travail qui me disent que leurs futurs copains devront être motards, savoir piloter un avion, un bateau, être brun grand, je trouve que c'est beaucoup de critères. Donc je pense que si on continue comme ça, on va tous devoir avoir des CV, passer des entretiens d'embauche à la place de l'employeur.
C'est ça.
Après, par rapport au fait que je sois tatoué et que j'ai 20 ans, en fait, j'ai la moitié du corps qui est tatoué. Moi, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage au travail qui me demandent si ça ne dérange pas pour le travail, si sont conscients, oui. Du moins si je suis conscient que ça sera jusqu'à la fin, pour toujours. Ce dont je réponds souvent, que j'étais pas au courant et que...
Vous faites de la provoque, oui.
Un peu,
que c'est des décalcomanies sur votre peau, ça. C'est ça, en fait.
Exactement, oui. Il y a des personnes voilà, qui me disent mais c'est pas des vrais. Et je leur dis non, c'est indécent, c'est moi qui me suis amusé. Et donc, par rapport à ça, par rapport au tatouage, moi, c'est une façon de mon, comme disaient les intervenants tout à l'heure, comme quoi qu'on était soit colocataire, soit on faisait qu'un avec son corps.
Oui.
Moi, les tatouages, ça me permet d'exprimer, de faire ressortir ce qui m'a amené jusqu'ici.
C'est votre histoire. Vous avez inscrit un peu un bout de votre histoire et de votre identité sur votre peau. On le comprend bien. Merci infiniment, Oscar, de nous avoir appelé ce matin dans l'été comme jamais. Dorothée Gilbert, juste un mot un peu plus sérieux, mais j'ai été frappée par les mots d'une de vos professeurs. Vous le racontez dans votre livre Étoile. Elle vous dit, avec ton corps androgyne, on ne sait pas trop si tu aimes les filles ou les garçons. Ta bosse sur le nez, ce serait bien que tu la fasses raboter. Comment vous percevez ces phrases alors que vous êtes une adolescente à ce moment-là?
Bah, c'était dur, hein, ouais. Quand on est une adolescente et que justement on se cherche, on sait pas si on plaît, on est en pleine découverte, voilà, du monde de soi, des autres, etc., du regard des autres. c'est pas évident de recevoir ce genre de propos. Et j'ai des complexes qui m'ont suivi à cause de ces phrases pendant des années après. Oui. Mais
des complexes de quel ordre ?
Bah justement, d'avoir un physique assez androgyne, des petites hanches, des épaules assez larges. Mais finalement, maintenant, je me rends compte que ça peut être aussi un atout et des qualités. Donc après, il suffit aussi de changer sa perception.
Camille,
voilà,
ouais,
de changer sa perception, ce que les autres peuvent dire de soi et d'en faire une qualité ou de les accepter pour les mettre en valeur, justement.
Mais comment on fait ça? Parce que c'est ça la difficulté. C'est comment on accepte ces remarques pour dire, bon, bah, finalement, moi, c'est mon corps, je l'accepte et c'est comme ça.
Bah, ça dépend si on a envie de vivre toute sa vie avec une lutte oui. contre soi-même ou si on décide de vouloir être heureux et de s'accepter tel qu'on est. Donc après, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que c'est un cheminement et que chacun prend le temps qu'il est nécessaire pour pouvoir s'accepter et pour pouvoir justement comprendre ses qualités et ses défauts. C'est un peu comme dans la danse classique, c'est-à-dire comprendre ses qualités et ses défauts pour travailler ses défauts ou au contraire les mettre en valeur pour en faire des qualités.
Voilà, et restez positive définitivement, j'ai l'impression. Merci Dorothée. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail sur la page de l'émission L'été comme jamais. Je serai ravie de vous lire à l'antenne. Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change,
turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Turn
and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? You've left us up to her next to me. David Bowie et son tube Changes qui date de 1971, un des titres que le chanteur britannique a le plus repris sur scène au cours de sa carrière.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
corps et pression sociale, c'est le thème de l'été comme jamais. Ce matin, j'aimerais vous lire quelques messages que nous venons de recevoir sur le site de France Inter, comme Trushima qui nous dit « Je suis brésilienne, j'ai 50 ans, en France depuis l'âge de 22 ans et en arrivant ici, j'ai tout de suite adoré le climat décontracté autour du corps, si différent des diktats sociaux brésiliens. Ici, on pouvait avoir des dents de travers, des poils sous les bras, etc. La société française a bien changé depuis. La norme américaine gagne du terrain. Moi, je m'aime plus à 50 ans qu'à 20 ans. » Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui doivent vous dire ça, Margaliano, qu'on se sent mieux à 50 ans qu'à 20 ans. On apprend à s'accepter
exactement,
aussi.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut avoir du recul. C'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire que plus on se décale par rapport à soi, plus on peut être juste dans la critique.
Oui.
Quand on est jeune, c'est un rush, on court tout le temps, il y a trop de choses à expérimenter, et donc on est toujours la tête dans le guidon. Alors qu'en vieillissant, c'est ça l'avantage de vieillir aussi.
Vous voyez, Camille ou Montcarnel, vous allez, en vieillissant, vous allez vous détacher de votre
corps. Ça va être encore mieux.
Ça va être encore mieux, c'est ça.
Oh là là, la déflagration.
C'est bien fait de faire l'émission avec nous, vous voyez. Je voudrais vous lire le message de Marie qui nous dit « Je crois qu'il faudrait arrêter de commenter le physique des petites filles. Ma nièce, l'autre jour, faisait une grimace et quelqu'un lui a dit « T'es pas jolie quand tu fais ça, c'est dommage. » Comme si son désir de s'amuser un instant avait moins d'importance que le fait d'être jolie en permanence. Camille, vous accordez beaucoup d'importance à la pédagogie et aux connaissances de notre corps pour expliquer aussi ces injonctions.
Ben complètement. Le poids des mots est énorme.
Oui.
Souvent, on parle, on s'exprime. C'est vrai que moi, parfois, je fais des exercices tout simples, mais c'est redonner la définition des mots, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on est plus sur de l'interprétation plus que sur concrètement ce que veulent dire les mots.
Oui.
Et expliquer, surtout en rire. Être dans l'autodérision, dans le à peu près 50e degré. Je pense que c'est des choses qui sont quand même hyper importantes, parce qu'à partir du moment où on arrive à désorcer quelque chose, j'ai l'impression qu'on reste, quand on reste dans du très sérieux, dans du très pragmatique, c'est important. Mais c'est vrai que moi, c'est pas la façon que j'ai d'aborder ces sujets-là, et surtout de les rendre accessibles et qu'on puisse se les approprier pour qu'on avance et qu'on se sente bien, tout simplement, en fait.
Je voudrais vous lire un autre message de Margot. Les injonctions faites à la femme enceinte sont très importantes et souvent stressantes. Enceinte pour la deuxième fois et déjà à 3 mois, les remarques sur mon corps actuel et futur sont quotidiennes. Prendre du poids mais ne pas trop, perdre vite après l'accouchement, la balance sur laquelle on veut nous faire monter à chaque rendez-vous médical. Alors être enceinte, ok, prendre du ventre normal, mais tout le reste surtout pas. Personnellement, je trouve ça épuisant et parfois maltraitant. Dorothée Gilbert, vous êtes maman, vous avez eu votre enfant pendant que vous étiez danseuse.
Ouais.
Est-ce que ça a changé votre regard sur votre corps, cette grossesse ?
Pour la première fois, mon corps faisait quelque chose que mon esprit ne lui avait pas commandé, en fait.
Que vous ne pouviez pas maîtriser aussi.
Que je ne pouvais pas maîtriser. Donc c'était assez déroutant, assez impressionnant et magique, en fait, aussi, quand même. Mais c'est sûr qu'au bout de 8 mois, quand j'avais un ventre énorme, j'avais même oublié
mon corps d'avant.
C'était assez étrange. Je me regardais dans le miroir et j'arrivais plus à m'imaginer comment j'étais avant. Et c'est perturbant. Et je comprends que voilà, la grossesse, c'est un moment magique. Évidemment, on le souhaite à toutes les femmes qui ont envie d'avoir des enfants, mais c'est aussi assez déroutant de voir comment son corps se transforme.
Mais vous avez eu peur, presque, de ne pas retrouver votre corps et donc de ne pas pouvoir redanser ?
Peur, non. J'étais un peu spectatrice, finalement.
Oui.
Et puis, tout est revenu dans l'ordre très rapidement. En fait, le corps, il a quand même une mémoire, je pense, très forte de ce qu'il était avant. Et moi, il est vraiment revenu à la normale, entre guillemets, très rapidement. En plus, comme je suis tonique, ça a été rapide. Mais je pense que la nature de chacun aussi est très importante quant au retour à la normale après une grossesse.
Alors, je voudrais... je vous entends.
Si je peux me permettre. Et puis je pense que faut aussi accepter et accompagner aussi les personnes sur peut-être pas ce corps d'avant. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé des choses. Et je pense qu'il faut pas non plus absolument vouloir retrouver son corps d'avant, comme si, ou revenir à la normale. Je pense qu'il faut aussi accepter que le corps change, qu'il s'est passé des choses et que bah c'est aussi peut-être le corps qu'on aura maintenant, et c'est pas grave en fait, et qu'on n'est pas sur quelque chose de mal, qu'on n'est pas sur quelque chose de grave, et que ça peut être si beau, et que le corps change. Et justement, moi, le côté poétique du corps, c'est ça, c'est qu'en fait pendant toute une vie il raconte des choses, et je pense qu'il faut pas non plus voilà entretenir cette pression qu'on peut avoir du oui. corps d'avant qu'on met sur les femmes enceintes, enfin où les femmes font accoucher, parce que voilà, il s'est passé quelque chose en fait, vous avez quand même créé un humain.
Oui.
Donc on va attendre, je pense.
Dorothée.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand je parle de corps d'avant, c'était plus par rapport au corps de danseuse, dans le sens athlétique en fait, oui. de savoir est-ce que j'allais pouvoir retrouver la force physique, est-ce que j'allais pouvoir okay. retrouver les capacités entre guillemets. Et étonnamment, je suis même plus souple maintenant. Depuis, donc il s'est même amélioré, j'ai envie de dire.
Vous voyez, c'est bien une grossesse aussi.
Ouais.
Alors, dans certains cas, ces injonctions sociales, elles rendent les corps quasiment invisibles. Je pense aux personnes grosses, et je précise que cet adjectif n'est pas un gros mot. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un documentaire de Gabriel Dédien. On achève bien les gros, toujours disponible sur arte.tv.
Moi, quand je vais chez un médecin, et que dans la salle d'attente, il y a des sièges à accoudoirs, et que je ne peux pas m'asseoir dans ces putains de sièges à accoudoirs, je me dis, c'est même pas la peine que j'aille voir ce médecin. J'ai envie de cramer le gars qui a conçu des sièges de théâtre qui font que mon cul ne rentrera jamais et que je pourrai jamais aller voir un spectacle. J'ai envie de cramer le gars qui fait que je suis trop serrée au cinéma et que je suis obligée d'y aller à la séance de 11h le lundi. Il y a 10 millions de personnes obèses en France et il y a personne qui se demande où elles sont. Enfin, les gens sont toujours étonnés quand je donne ce chiffre. Mais elles sont où? Bah, elles sont pas dans l'espace public. Elles peuvent pas se l'approprier. Quand elles se l'approprient, elles se font insulter.
Extrait d'un documentaire de Gabriel Dédié, où on achève bien les gros. Marc Gaillano, qu'est-ce que vous en pensez en tant que médecin de ces propos? Comment ça vous fait réagir?
Alors, il y a le médecin et puis
à titre personnel,
l'homme.
Oui.
Alors, l'homme, je suis évidemment choqué, mais médicalement parlant, en effet, lorsqu'on est en surpoids, on met sa vie en danger. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des troubles alimentaires, il y a des troubles psychologiques liés à des problèmes d'alimentation.
Oui, on sait que c'est multifactoriel. Ouais.
Voilà, c'est multifactoriel, mais en effet, lorsqu'on dépasse un certain poids, on abîme ses articulations, on abîme son cœur, on abîme ses reins, soit... En fait, on se met en danger.
Oui, mais j'entends ce que vous dites et je comprends que c'est le médecin qui dit ça. Mais en même temps, ces personnes ont le droit de s'habiller comme elles l'entendent. Et malheureusement, il n'y a pas de marque de fringues toujours adaptée. Elles ont le droit d'aller au spectacle, elles ont le droit d'aller chez le médecin. Comment ça
Bien
se
sûr.
Fait
elles
que, par exemple...
le droit que tout le monde.
Oui, Camille, on est d'accord. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas aller, par exemple, chez un gynécologue parce qu'il n'y a pas une table d'auscultation
qui est
adaptée? Ou en tout cas, il faut demander à plusieurs médecins avant de pouvoir être reçu.
Jusqu'à 200 kilos...
Ouais.
Toutes les tables, en tout cas médicales,
ouais.
peuvent tenir un poids. En tout cas, bloc opératoire, c'est sûr. Donc, quand on a de l'hyper grosse obésité morbide, ouais. là, il faut des tables spéciales. Mais si vous allez chez un médecin aujourd'hui, en effet, si il a des accoudoirs, mais en fait, je pense pas. C'est pas pour dédouaner les médecins, mais ouais. on pense pas forcément à mal. C'est comme quand on reçoit des handicapés. Vous avez un cabinet où il y a une marche. Si vous n'avez pas une petite planche pour pouvoir ouais. faire passer le fauteuil, ça va être compliqué. On parle de handicap. Alors, est-ce qu'il faut mettre les obèses dans la case handicap? C'est un vrai ouais. débat.
Moi, je trouve ça...
Oui, alors Camille, pardon, on voulait vous donner la parole. Camille, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça... En fait, il faut qu'on mette un mot sur ce qu'on est en train de dire. C'est qu'en fait, on vit dans une société qui est grossophobe.
Ouais.
Et je trouve ça aujourd'hui honteux qu'on soit obligé de créer des applications, qu'il y ait des listes de médecins friendly pour les gros et les grosses. Je trouve ça honteux qu'on soit obligé de créer des applications pour voir dans quel restaurant est-ce qu'en tant que personne grosse, tu peux aller ou pas, tout simplement parce que tu vas pouvoir t'asseoir. Mais en fait, la honte. Juste la honte.
Mmh.
Pour moi, c'est quelque chose... être dans l'inclusivité, c'est aussi ça. Et c'est aussi se dire qu'on va leur permettre un accès comme, entre guillemets, tout le monde, mais tout simplement parce qu'en fait, ils font partie de tout le monde. Donc, faut qu'on arrête de mettre les gros à part et de pas penser à eux quand on crée des infrastructures, quand on crée des bancs, quand on crée des sièges dans le métro, quand on crée, en fait, voilà, ils font partie de la norme, ces personnes-là font partie de la norme, et ça serait bien qu'on, voilà, on a des cerveaux oui. humains, je pense qu'on peut réfléchir, et si on arrive à envoyer des gens sur Mars, on peut créer des infrastructures qui accueillent tout simplement tout le monde. Voilà.
Je
merci de brainstormer.
Oui, non, vous avez raison. Je pense que Margaret, vous êtes sur un point de vue médical, forcément. Donc, on n'a pas forcément la même réponse à ces questionnements-là.
C'est pas ça. Quand vous allez aux États-Unis, il y a 45% de la population qui est obèse. Il n'y a pas d'infrastructure qui est dédiée aux obèses.
Oui, mais c'est pas normal, on est d'accord.
Mais c'est horrible.
Oui, mais là, on est vraiment sur des débats de société.
Oui.
Qui est compliqué. Aujourd'hui, quand vous êtes en fauteuil roulant.
C'est pas adapté non plus,
c'est
on est d'accord.
C'est pas adapté non plus.
Ouais.
Donc, voilà, une fois de plus, il y a l'obésité, il y a le handicap qu'on subit parce qu'on en a été victime. Après, il faut parler, il y a deux types d'obésité quand même. Il y a l'obésité vraiment morbide qui est exceptionnelle et puis il y a de l'embonpoint. Là, quand on parle, on ne peut pas s'asseoir sur un fauteuil, on parle d'obésité morbide.
C'est pas pareil, c'est pas, évidemment pas la même chose.
Ça touche un petit pourcentage des obèses.
Ouais. Hein. Est-ce que d'ailleurs, ce que vous appelez l'embonpoint, c'est une injonction sociale très forte chez les hommes? Vous essayez de me montrer, vous avez de l'embonpoint, vous êtes mince comme tout, Marc Galliano.
Eh ben, en effet, c'est faux.
Quoi, c'est faux?
On a un petit bourrelet. À 50 ans, on a tous un petit bourrelet.
Et vos patients viennent vous voir pour que vous effaciez ce bourrelet?
Alors, moi, souvent, on me demande d'effacer ce bourrelet pour injecter la graisse dans la verge pour l'élargir. Donc, c'est d'une pierre deux coups.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
C'est compliqué quand même, ces histoires-là.
C'est pas vraiment compliqué, parce que la plupart des gens qui viennent me voir en pensant qu'ils ont une petite verge, la première chose que je leur dis, c'est perdez du poids, vous verrez votre sexe, il n'y a pas besoin de vous opérer de votre verge. Donc, bien souvent, c'est comme ça.
Ah, c'est pragmatique, hein.
C'est pragmatique.
On est bien d'accord. Camille Aumont-Carnel, comment faire pour faire bouger les lignes, pour expliquer aux ados que le corps des magazines, c'est pas forcément des modèles à reproduire?
Déjà leur dire, montrer d'autres corps, peut-être qu'ils leur ressemblent un peu plus. Et moi, je suis hyper confiante par rapport à l'avenir. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des générations qui suivent, qui sont quand même hyper au taquet et qui sont dans une phase qui naissent. Déjà, on est dans un bain où la déconstruction est à la mode. Donc, je pense que ça va se faire, le fait qu'aujourd'hui, on dédie une émission entière pour parler de ces sujets-là avec une liberté d'expression totale où on peut vraiment s'exprimer et dire les choses. Ça fait que ça avance. En fait, faut juste laisser le temps au temps. Je sais qu'on est tous un peu pressés, et moi la première, parce que j'ai le nez dedans. Mais ça va arriver, on voit bien que tout est en train de changer. Il suffit de comparer à comment est-ce que ça se passait il y a 5 ans, il y a 10 ans, et on voit bien que voilà, on n'a jamais autant parlé de tous ces sujets-là, on n'a jamais autant confronté les avis, on n'a jamais essayé de faire autant en sorte que les gens se sentent bien, tout simplement. Et ça va venir. Donc gardons nos poils, faisons des tresses avec, et ça va bien se passer.
Et je vous propose même de danser et de mettre nos grands mouvements.
Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée. Cacher ma timidité. C'était qu'une simple démonstration. J'étais prêt à l'essai. Juste une façon de faire diversion. Avant que ça dégénère. Appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai. Histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas. Yeah. Ramène-moi. Si je reste, je vais faire des dégâts. Ramène-moi. Je vais rentrer chez toi. T'es dans tous tes états. Badaboum, boum, patatra. t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Un, deux, trois, tcha tcha tcha.
Le tcha-tcha-tcha de la comédienne et chanteuse Bonnie Banane sur France Inter. Il est temps pour moi de vous remercier parce que vous avez été très nombreux à réagir aujourd'hui à cette émission et de remercier aussi nos trois invités du jour. Merci Camille Aumont-Carnel. Vous étiez en direct de Nice dans les studios de nos confrères de France Bleu Azur. Et pour vous suivre, ça se passe sur Instagram, nous sommes d'accord avec votre compte Je m'en bats Clito. Merci beaucoup c'est d'avoir ça. Été avec nous. Et merci Galliano. Je conseille aux hommes et aux femmes votre livre Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis. Et c'est aux éditions Marabout.
Merci Eva.
Merci Dorothée Gilbert. On vous laisse repartir au Ballet de l'Opéra de Paris. Je recommande votre livre Étoile publié au Cherche Midi. Comme tous les jours, je vous propose de prolonger le sujet avec un de mes coups de cœur. En l'occurrence, il s'agit de la série Shrill, à voir sur mycanal.fr, l'histoire d'Annie, une femme grosse qui a décidé de changer de vie mais pas de corps. Série drôle, émouvante et qui pose un regard juste sur la grossophobie. Une petite merveille en trois saisons portée par son interprète principale et son autrice, Heidi Bryant. Ce numéro de l'été comme jamais a été préparé par Juliette Medevielle à la réalisation, Victor Ouvrard à la technique, Margot Page, Anna Massardi et Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. On se retrouve demain 9h sur France Inter avec une émission intitulée 50 nuances de rire. Il sera question d'humour, évidemment. En attendant, place à la philosophie avec Charles Pépin. Bonjour Charles, qui vous accompagne ce matin ?
Bonjour. Aujourd'hui, mon invitée est la dessinatrice Catherine Meurice et avec elle, nous nous questionnerons sur la légèreté, la gravité et ce que nous fait la beauté du monde.